même de notre péché envers Dieu. Toute autre chose n'est pas satisfaisante pour la sainteté et la justice divine. Mais le sacrifice de Jésus-Christ satisfait à la fois l'amour de Dieu et la justice de Dieu, en ce qu'il nous aime assez qu'il meure pour nous sur la croix. Donc la croix, le sacrifice de Jésus, c'est la seule œuvre satisfaisante. C'est ça notre message. C'est le message de l'Église chrétienne, c'est que le sacrifice de Jésus est la seule œuvre satisfaisante pour régler le problème du péché entre nous et Dieu. C'est le cœur même de notre message dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, à tel point que Paul, dans ce verset-là, dit « L'amour de Dieu presse sur notre cœur et c'est comme si Dieu exhortait au travers de nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le cœur de notre message, c'est que Jésus nous a réconciliés avec Dieu et maintenant les hommes n'ont qu'à se réconcilier avec lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas vous devez faire des œuvres pour satisfaire Dieu, pour qu'il puisse vous accepter. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ a fait une œuvre et vous pouvez accepter cela en étant réconcilié, en acceptant l'œuvre qui a été faite pour vous. Quand on ajoute une œuvre à la croix de Christ pour être sauvé, Christ est mort pour rien. Galates 2, 21 nous dit clairement, si il faut être sauvé en faisant les œuvres de la loi, Christ est mort en vain. L'œuvre de Christ est vidée, ça, elle ne sert plus à rien. Alors, c'est important, d'abord, c'est un sujet très important qu'on parle aujourd'hui, le titre de la série, c'est « La persévérance des saints exposée ». Et aujourd'hui, on va voir la place de la fidélité. On va regarder un verset, on va le voir ici. Oh, vert sur vert, ça ne sort pas comme je pensais. OK. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » On va faire une formule mathématique avec ça. Je vous promets que je vais vous expliquer les signes, puis que à chaque fois que je vais peser sur le signe, je vais faire référence à un signe, je vais l'expliquer. Ah, le mot en vert devrait sortir plus que le mot noir, et c'est le contraire que ça a fait. Okay? Alors, sur mon écran, ça sortait correct, mais avec la luminosité, c'est pas ce que j'attendais. Mais on voit le verset. Il y a deux propositions ici qui sont comparées l'une avec l'autre. La première, c'est « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Okay? Autrement dit, prochain clic, on avance encore. Faut que tu cliques sur l'écran, Stéphane, d'où est-ce que le point… Oh, non, on revient en arrière. OK, on l'a ici en haut. OK. Oups, non, là, on est après. Ah, ça marche-tu? Ah, ça marche, là, Stéphane. Merci. Tu es rendu le réparateur Maytag. Tu peux faire d'autres choses. OK, donc, l'œuvre ici, c'est O. L'œuvre et le salaire, c'est soit une œuvre et un salaire, ou, exclusif, ce n'est pas les œuvres et la grâce. Fait que là, ceux qui aiment les maths sont rassasiés. Ceux qui aiment le français, c'est des lettres. Puis ceux qui aiment la théologie, c'est des énoncés théologiques qui sont comparés. Fait que j'espère que je vais plaire à tous. OK, premièrement, soit tu fais un œuvre puis tu attends un salaire, ou exclusif, ça veut dire que ça exclut, c'est soit ça, ou encore tu ne fais pas d'œuvre et tu reçois une grâce, qui est de recevoir la justice imputée de Jésus-Christ. OK? Soit tu fais quelque chose puis tu as un salaire pour ce que tu as gagné, soit tu n'as rien fait et tu reçois une grâce. C'est ça ici que le verset nous dit. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle concernant le salut, c'est qu'elle exclut l'œuvre pour recevoir un salaire et la seule chose qui reste, c'est je ne fais pas d'œuvre et j'obtiens la grâce. Ça, c'est important. Parce que tantôt, et les versets qui sont difficiles à comprendre, on va aller passer au travers un petit peu cette formule-là pour voir si ça passe le test de l'Évangile. OK. Le salut, c'est 100% l'œuvre de Dieu, comme dit Éphésiens 3,13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. On n'a pas été approchés parce qu'on s'est rapprochés. On a été approchés parce qu'on a été approchés. où on a été rapprochés. Et ce qui nous a rapprochés de Christ ou de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Toute œuvre méritoire qu'on pourrait faire pour penser se rapprocher de Dieu pour être sauvé, ou toute œuvre méritoire que nous pensons devoir continuer à faire pour rester sauvé, que ce soit avant d'être sauvé, que ce soit après d'être sauvé, ça vient enlever la valeur du sang de Jésus-Christ. Hein? C'est par le sang de Jésus-Christ et par cette seule œuvre-là que nous avons été rapprochés de Dieu, sauvés. Et la question qu'on pose, c'est, mais ne dois-je pas tenir jusqu'à la fin si je veux être finalement sauvé? Si on pose la question aux gens ici, la majorité, si je vous pose la question, est-ce que croire en Jésus-Christ seul pour avoir la vie éternelle, ça vous sauve? La majorité, on va dire oui. Si je vous dis, si vous vous détournez, si vous le reniez, si vous vous dites que vous n'êtes même plus un chrétien, est-ce que vous l'êtes encore? Et là, le doute va venir nous envahir. Il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine de la persévérance des saints qui trouve sa racine dans peut-être une vingtaine de passages dans la Bible qui nous laisse supposer que si on ne persévère pas, ben on ne sera pas sauvé à la fin. Par contre, et ça, c'est basé sur des versets difficiles à comprendre, et c'est le but de cette série, c'est de regarder les versets difficiles à comprendre. C'est le troisième verset difficile à comprendre concernant la persévérance des saints. Et ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est la place de la fidélité dans notre marche chrétienne par rapport à notre salut et tout ça. Donc, la question, est-ce que je dois tenir jusqu'à la fin si je veux être finalement sauvé? On va reprendre l'histoire de Noé, puis sans manquer de révérence envers le texte biblique, je vais vous la conter d'une nouvelle manière. Okay? Donc, qu'est-ce que vous penseriez de cette version du déluge de Noé? Après que l'arche soit terminée, Dieu dit à Noé, « Fais de grands pieux en métal que tu mettras tout à l'extérieur. » Et après que la parole fut adressée à Noé, Noé fixa exactement comme Dieu l'avait demandé, des pieux sur le bord de l'arche. Puis la parole vint de nouveau à Noé en ces mots, « Maintenant, parle à ta femme, à tes fils et aux femmes de tes fils, et tu leur diras, « Agrippez-vous sur les pieux et tenez bon. » Alors Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses fils s'agrippèrent et Dieu fit venir la pluie sur le monde entier. Et alors que l'arche était plongée ça et là par les vagues, les muscles de leurs bras furent épuisés à l'extrême. Alors ils persévérèrent à la garder les bras bien accrochés aux pieux et furent sauvés. Imaginez des paroles d'encouragement comme « Si vous tenez les pieux jusqu'à la fin, vous serez sauvés. » Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le texte biblique? On ne voit pas ça. L'histoire est bien différente. Dans le texte biblique, qu'est-ce qu'on voit? Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche, lui et sa famille. Et là, la pluie a tombé et le déluge a envahi le monde. Et c'est très différent que de s'y tenir. Tant qu'ils étaient dans l'arche, leur sécurité dépendait de la solidité de l'arche et non pas du fait qu'ils se tenaient à quelque chose, mais qu'ils étaient à l'intérieur de quelque chose qui était assez solide. Donc, la rigueur de l'arche, c'est ce qui les a sauvés, et c'est la rigueur de ce que Jésus-Christ a fait pour le croyant qui peut le garder sauvé et en sécurité, non pas sa foi dans la foi dans le Christ. Okay? Et ce n'est pas notre foi qui nous tient fermement accrochés à Christ, c'est Christ en qui nous avons cru qui nous tient en sécurité une fois pour toutes. Plus tard, dans la série, je vais parler d'abondance, verset qui nous montre que c'est très sécure que d'être en Christ ou être comme dans l'arche, on peut dire, ou être en Christ, être sauvé. C'est très sécure. Par contre, aujourd'hui, on va regarder des versets qui nous montrent qu'on peut peut-être en douter. Donc, pour nous, on peut être les plus sûrs. Regarde dans Romains 5, au verset 10, quelle assurance qu'on a dans ce verset-là. Or, car si... Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On dit, quand on était infidèle, on ne voulait rien savoir de lui, quand on était ses ennemis, Christ a démontré envers nous, il est mort pour nous réconcilier, il est venu prendre nos offenses, puis il est mort pour elles. À combien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Si, quand on était ses ennemis, Christ est mort pour nous, imagine à cette heure qu'on est rendu ses amis, dans quelle position cela nous place-t-il? On va parler de la place de la fidélité ça va être dans 2 Timothée 10, 13, mais on va parler de la place de la fidélité par rapport à la marche chrétienne puis au salut aujourd'hui, avec ce passage-là qui est dans 2 Timothée 2, 10 à 13. OK. Premièrement, la fidélité dans le Nouveau Testament n'est jamais utilisée comme une condition au salut. Jamais. Jamais tu vas être fidèle, puis là tu vas avoir, Dieu va te sauver. C'est mentionné comme une des conditions aux récompenses dans Apocalypse 12, 10. Hein? C'est mentionné, par exemple. C'est l'état d'une personne qui est déjà sauvée. Donc, on voit que souvent, Paul écrit ses lettres aux fidèles qui sont à Colosse, aux fidèles qui sont à Éphèse, aux fidèles que... Donc, c'est des gens qui sont fidèles ou des gens dignes de confiance, des gens sur qui on peut s'appuyer. Mais ce n'est pas un état garanti. Ça veut dire que si vous êtes fidèle présentement comme fruit de votre salut, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez demeurer fidèle tout le temps. C'est quelque chose qui peut se perdre. On le voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit un Salomon qui était notamment un croyant notoire, qui est devenu idolâtre, qui a commencé à se prosterner devant les statues de ses femmes et de ses maîtresses, ou plutôt ses concubines, pour être plus juste. Il était idolâtre et il a apostasié. Il s'est éloigné de sa foi qu'il avait au commencement. Dieu admirait sa foi. Il lui disait que c'était merveilleux. Il demandait de la sagesse plutôt qu'avoir de les richesses et de la gloire. Tu sais, Dieu l'avait louangé pour ça. Un homme de Dieu qui a bien commencé, qui a fini par consulter les morts, qui consultait ceux qui consultaient les morts, Saül, qui était sauvé. Puis quand il est allé consulter la voyante d'Endor, Samuel lui a dit, « Demain, tu vas être avec moi. » Il meurt. Autrement dit, Samuel lui annonce son châtiment. Puis il dit, « Tu vas être avec moi. » Samuel, on sait très bien qu'il était sauvé. On voit des gens qui peuvent être disqualifiés de la course. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, Paul dit, « Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et si je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il dit « Courez pour remporter le prix de la course. » Il dit « Je m'impose moi-même toutes sortes de disciplines, puis je veille à cela parce que j'ai dit aux autres de faire ça, puis je ne voudrais pas arriver à être disqualifié de cette même course-là en ne respectant pas moi-même les principes que j'ai enseignés. » Donc, Paul, il dit « Gars, prenez-moi un exemple, mais en même temps, je me surveille pour être sûr que je demeure fidèle, que je demeure à les yeux sur le prix, puis que je cherche toujours à obtenir le prix de la vocation céleste, mais je pourrais être disqualifié de cette course-là. » Ça ne veut pas dire nécessairement de ne pas être sauvé, ça veut dire de manquer de fidélité. En 1 Timothée et 2 Timothée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu 1 Timothée et 2 Timothée deux fois. Je l'ai relu pour mettre un peu la péricope autour de ce verset-là. Hein? Péricope veut dire « regarder tout autour ». Et on trouve dans 1 Timothée et 2 Timothée des versets sur l'infidélité. Il parle des gens qui s'égarent de leur foi qu'ils avaient premièrement eue, des gens qui font naufrage à la foi dans 1.18. L'autre, c'était 1 Timothée 1.5, ceux qui sont sur audio. S'éloigner de la foi dans 1 Timothée 4, 1 à 3. Renier la foi dans 1 Timothée 5, 8. Renier la foi et suivre Satan. Ici, c'était une femme qui était jeune. Puis elle avait fait le vœu de servir le Seigneur, de ne pas se remarier quand son mari était mort. Mais finalement, elle est tentée. Puis elle va se chercher probablement un non-croyant dans le monde. Et donc, si Paul dit « elle s'éloigne, les jeunes veuves, elles renient leur foi, et suivre Satan. S'éloigner de la foi et suivre l'argent. S'éloigner de la foi et professer des fausses doctrines dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 20 à 21. Donc, il y a souvent ce terme-là qui revient dans Timothée et le passage d'aujourd'hui nous dit, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Qu'est-ce que ce passage paraît dire? On dirait que ce passage-là paraît dire qu'on ne pourra jamais tout à fait être sûr, parce qu'on sait pas, on n'est pas sûr si on ne va pas le renier. Ça va en haut, ça va. Si on est mort avec lui, on va vivre avec lui. Ça va. On a cru à la crucifixion. Bon, on va avoir la vie éternelle avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. OK, on ne va peut-être pas régner si on ne persévère pas. Jusque-là, ça va. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ça veut dire que si jamais, à un moment donné, je commence à dire que Christ n'est pas venu, puis je renie ce que j'ai cru, ou je renie que je suis un croyant, ou peu importe, lui aussi nous reniera. Donc, si on dirait que ça peut se perdre, et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. On va regarder le passage. Qu'est-ce qu'il dit? Prochaine acétate. OK. Cette parole est certaine. Donc, avant de lire le reste du passage, on va s'attarder sur ça ici. Cette parole est certaine. Les commentateurs bibliques semblent dire que c'est un aphorisme. Un aphorisme, c'est une phrase ou une sentence qui résume en quelques mots une vérité fondamentale. Rien n'est plus beau que le vrai. Ou c'est un énoncé succinct d'une vérité banale. Oups! Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Autrement dit, c'est un patois. C'est une expression régulière qui est reprise, qui est répétée comme « à bon temps, le bon vent » ou « c'est quoi qu'on pourrait dire? » Qui s'y fera typique? Quoi d'autre? Ben oui, mais c'est ça, d'autres idées que ceux-là. Donc, ici, on peut se poser la question en faisant notre péricope si Paul utilise ça ailleurs dans ses écrits et dans le livre de Timothée, 1 Timothée 1.15, 1 Timothée 3.1, et dans 1 Timothée 4.19, il le fait exactement ça. J'ai pris juste les deux versets parce que le 4.19, je n'étais pas capable de voir dans le français de quoi est-ce qu'il parlait. Donc, c'est comme on dit, c'est comme on dit, c'est vrai. Okay? C'est un peu comme si ça, c'est vrai ce qu'on dit, puis là, il y a quelque chose qui est cité. Que ce soit un hymne, que ce soit un credo que les chrétiens du 1er siècle avaient tendance à faire, lire des credos, puis de les répéter, puis de les répéter. Ou que les Crétois, là, qui avaient un passage qui disait toujours gourmand, paresseux, puis le Paul va prendre tel que vos poètes l'ont dit. Okay? C'est un aphorisme, c'est ça. Donc ici, Paul dit à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne. Donc, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ, et ça devait être le credo ici, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une phrase apprise par cœur probablement que les chrétiens répétaient. Hein? Et Paul rajoute, dont je suis le premier. Dans 1 Timothée 3.1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, c'est quelque chose qui se disait probablement parmi eux. Si tu veux être un pasteur, c'est une bonne chose. Okay. Donc, c'est une parole certaine. Donc, cette parole certaine, si nous sommes morts avec lui. Et là, donc, ce qui est intéressant ici, cette parole est certaine, c'est vrai. Là, ce que je vais vous dire, ce qu'on entend dire, ce qui est souvent répété, c'est vrai. Et là, Paul va faire 4 énoncés. On va regarder ces énoncés-là ensemble. Et ces 4 énoncés-là sont vrais, selon l'apôtre Paul. Premièrement, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Donc, si nous avons, en littéral, c'est si nous avons été mis à mort avec lui, nous vivrons avec lui. Donc, encore, c'est quelque chose qui était cité peut-être que Romain le dit exactement comme ça. Nous avons été mis à mort avec lui. Et nous vivrons avec lui. Fait que c'était quelque chose qui était répété, probablement. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé une fois dans le passé, c'est un aoriste et qui a encore des effets aujourd'hui. Donc, si c'est vrai que je suis mort avec lui dans le passé, donc je me suis identifié à la mort de Jésus-Christ à la croix, de la même manière dans le futur, je vais vivre avec lui. La formule est la suivante. Mon expérience, l'expérience de Jésus, M pour ma mise à mort, V pour ma vie avec lui. Donc, si je suis mort, ça implique nécessairement que je vais vivre aussi avec lui. Et on voit ça ici. Donc, la petite flèche verte ici dit, si je suis mort avec lui, je vais aussi vivre avec lui. Donc, M implique V. Si je suis mort avec lui, je vais vivre avec lui. Un implique l'autre. Ça va pour les mathématiques? OK. On continue. Donc, si j'ai accepté Christ, finalement, je vais aussi ressusciter avec lui. Si je me suis identifié à la mort de Christ, la Bible dit que c'est comme si j'étais mort avec lui, bien, je vais aussi vivre avec lui. Parfait. Ça va. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est une vérité. Vérité 1. Ensuite, si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Là, je vais juste suivre avec mes notes pour être sûr que je n'échappe à rien ici. Vérité 1. Si nous persévérons avec lui, nous règnerons aussi avec lui. Donc, ici, c'est la vérité numéro 2. Et en plus de partager sa vie, ça, c'est ma vie, ça, c'est mon expérience, ça, c'est l'expérience de Christ. Ici, c'est ce que je partage avec Christ, c'est sa mort et sa résurrection. Donc, j'ai la vie éternelle puisque j'ai accepté la croix pour ma vie. Il y a une chose de plus qui s'ajoute, c'est son règne. En plus de partager son expérience qui est sa mort et sa résurrection, en plus de ça, vient s'ajouter une autre sphère ici qui est son règne et me fait partager avec lui l'expérience de son règne. Donc ici, je participe à la vie éternelle et ici s'ajoute la possibilité de régner aussi avec lui. Pas juste de vivre éternellement avec lui, mais en plus de ça, de régner avec lui. Donc ça va. Donc la formule mathématique serait la suivante. Bon, premièrement, je partage sa mort et je partage sa vie. Mais en plus de ça, je peux partager la persévérance, je peux persévérer et je vais être régné avec lui, je vais être récompensé. Et là, donc, ça se sépare. Là. Et ça, c'est important de faire cette distinction. Là, on va voir que le passage d'aujourd'hui nous rend encore sécures. Et elle vient même affirmer notre sécurité qu'on a en Jésus-Christ. Bon, cette phrase-là, ici, je l'avais lue au début. On avait vu que ce n'est pas par les œuvres, OK, donc, excuse-moi, pas d'œuvres et la grâce, OK, ça c'est le salut. Pas mes œuvres, puis la grâce, l'œuvre d'un autre. Donc, ce n'est pas mon salaire, c'est mon pas d'œuvre plus sa grâce qui m'a sauvé. Ça, c'est ça ici. Je n'ai pas fait d'œuvre, il a fait une œuvre, je n'ai pas fait d'œuvre et j'ai reçu la grâce. C'est soit ça, et ça exclut ça, c'est-à-dire faire des œuvres et recevoir un salaire. C'est soit ça ou soit ça, ça ne peut pas être les deux. Pour le salut, donc, c'est « je ne fais pas d'œuvre et je reçois la grâce », c'est cette partie du haut-là ici. Ça l'exclut, je fais des œuvres et je reçois un salaire. Pour le salut! Bien, c'est vrai aussi pour les œuvres, c'est-à-dire qu'ici, c'est par les œuvres, persévérance, puis je vais recevoir un salaire, je vais régner avec lui. Donc, ça exclut la grâce. C'est-à-dire que les gens qui vont être récompensés puis qui vont régner avec Christ, ça, c'est les œuvres et le salaire. Ça exclut la grâce. Donc, si c'est un salaire, ça ne peut pas être une grâce. Ça va-tu? Si on ne regarde pas le dessin, là, on regarde moi parce que là, on voit toutes des lettres promener, des chiffres. Puis que je vous dis, c'est soit le salut, c'est sans les œuvres, seulement par la grâce. Ça marche-tu? Ça l'exclut que c'est par les œuvres et que tu dois le mériter. Êtes-vous d'accord avec ça? Parfait. Maintenant, quand on va régner avec Christ, c'est avec les œuvres et avec un salaire. C'est les œuvres et un salaire. Ce n'est pas par grâce. Si tu règnes avec Christ, ça va être déterminé par comment tu as marché avec Christ quand tu étais sur la terre. Ce n'est pas par grâce, c'est par salaire. Ça marche-tu? Question? C'est ça. Oui, exact. On va continuer ta phrase. Au début, si tu fais rien, tu as de quoi? Puis si tu fais rien, tu n'as rien. Fait que ça va, ça fonctionne. Il y en a un, il dit, c'est pour le salut. Si tu fais de quoi, ça ne sert à rien. Si tu fais rien, tu l'as pareil. Si tu fais de quoi, tu remplis. Si tu l'attends un salaire, tu n'es pas dans la bonne section. Ici, c'est si tu fais rien, tu n'as rien. Si tu fais quelque chose, tu as quelque chose. Si tu persévères, tu règnes. Si tu ne persévères pas, tu ne règnes pas. Ici, si tu n'acceptes pas la grâce, tu restes de ce côté-là de ton expérience. Si tu acceptes la grâce, tu participes à l'expérience avec Jésus-Christ. C'est bon, j'aime ça. D'autres commentaires ou questions? C'est... Oui, le règne? On ne règnera pas tous. C'est ça, on va tous être au ciel, et Gilles le dit bien, parce que ici, c'est par grâce qu'on va être au ciel. Mais on ne règnera pas tous. Parce que ça va dépendre de notre persévérance. Où on ne règnera pas tous de la même manière, on pourrait dire. Ce n'est pas nécessairement blanc et noir, là, cette affaire-là. C'était des bons commentaires. As-tu d'autres choses à dire? J'espère que tu vas continuer à parler si jamais tu parles. Je vais essayer de ne pas t'interrompre. OK, si nous le renions, là, on rentre dans quelque chose de plus coriace un petit peu. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est quand même pas rien. Hein? Et c'est là que certains doutent et disent, si le meilleur des hommes de Dieu, la meilleure des femmes de Dieu a ce moment dans sa vie où il n'y en a rien à faire de celui qui l'a racheté, qui se détourne un peu comme Gomère puis qui retourne à ses vieilles bébelles. On a tous, à un moment donné, cette période-là. Et donc, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, si N, nous le renions, lui aussi, elle, nous reniera. Donc, l'équation serait suivante. Donc, si je fais ça, ça implique que ça. Donc, si je meurs, je vais vivre. Si je persévère, je vais régner. Si je le renie, nous le renions, lui nous reniera. Ça implique ça. Alors, je vais juste regarder mes notes pour être certain que on a tout. Je ne vais pas aller plus vite que mes notes. OK, l'équation, c'est N implique L. OK, qu'est-ce que ça veut dire de le renier? Qu'est-ce que ça implique de le renier? Peut-être qu'on pourrait aller voir des passages. Le mot est utilisé dans le Nouveau Testament pour renoncer. Renoncer ou, tu sais, comme la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux choses mauvaises dans ce monde. Renoncer, dire non. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas nécessairement dire « je ne t'ai jamais connu, je n'ai jamais été chrétien, Christ n'est pas mon sauveur » Ce n'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Ça veut dire de renoncer à Dieu, renoncer à son invitation de me consacrer, renoncer à un ministère qu'il a préparé pour moi, renoncer à être plus pur, renoncer à étudier pour me montrer irréprochable, renoncer à… Hein? Renoncer, refuser. Moïse refusa d'être appelé le fils du Pharaon. Dans Hébreux 11, 24, c'est le même mot qui est utilisé. Refuser. Refuser un privilège, refuser un honneur, refuser un... Refuser. Ça peut aussi être le mot renier. Et ça, c'est le terme peut-être le plus fort des trois. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si on avait le temps, on pourrait aller lire dans Matthieu 10, 33 jusqu'au verset 42 pour s'apercevoir qu'il parle à des croyants qui ont peur de montrer qu'ils sont croyants parce qu'ils pourraient se faire excommunier là, au premier siècle. Dans le temps que Christ était là, il y avait une menace d'excommunication si tu t'associais à ce sorcier-là. Il y avait toute une pression qui était là. Quand tu prenais position pour Jésus, tu prenais quasiment position contre ta famille. Puis il leur disait que souvent, tu vois les versets, si t'aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Il les appelait comme ça. Et l'appel qu'il faisait, c'était l'appel non pas juste à croire, mais aussi à être un disciple avec tout ce qui vient avec. Et il dit dans ce passage-là, si vous me reniez, si vous ne confessez pas publiquement, si vous n'êtes pas prêt à le dire devant vos familles, devant vos amis, que vous êtes un chrétien ou que vous êtes un suivant Christ dans ce temps-là, que vous me suivez, vous ne pouvez pas être mon disciple. Les gens étaient des croyants, OK? Mais n'osaient pas l'affirmer devant leur famille, devant leurs amis, qu'ils en étaient. C'était pour Jésus-Christ synonyme de renier qu'on est Christ. Et Jésus va dire, puis le mot « récompense » apparaît à peu près 4 fois entre le verset 33 et 42, et ça parle des récompenses, c'est qu'il va refuser il va te refuser à certaines récompenses si tu ne t'es pas affiché en tant que chrétien dans ce monde. Et donc, le passage, même ici, dans Matthieu 10, ça ne parle même pas du salut. Ça parle qu'on est refusé à certaines récompenses parce qu'on n'a pas brillé devant les hommes. On ne va pas recevoir ce règne-là avec lui nécessairement. Donc, même dans ce passage-là, où ce que ce mot-là est utilisé très fort, ça ne parle même pas d'être renié dans le sens où tu avais la vie éternelle, puis là, tu ne l'as plus. Parce que si dans notre équation ici, le texte dit au début, ces 4 choses-là sont vraies. Tac, 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 tac. Alors, si lui, je le renie, ça, c'est plus vrai, bien là, ça ne se tient plus. C'est pas vrai d'abord que quand on meurt, quand on est mort avec Christ, on va vivre avec lui. C'est pas vrai. C'est intéressant. Donc ici, ça serait, regardez bien mon petit cube rouge, là, mon petit, je sais pas quelle forme, là, pas cube, pas triangle, pas le losange avec 8 côtés, un octogone, non, regardez-le, parce que là, c'est important. Whew! Disparu. Okay? Parce que j'ai refusé ses invitations, parce que j'ai renoncé à son appel. Oui. Exactement. Oui, lui-même, il est sauvé, puis il dit, je pourrais disqualifier après avoir prêché aux autres. Il va dire, même si je vous enseigne un autre évangile que celui que je vous ai annoncé précédemment, que je sois anathème, et anathème, c'est réduit au silence. Et Paul ne se croyait pas immunisé contre le fait qu'il pourrait s'éloigner lui-même. Puis regarde juste dans Timothée, il n'a que se sont égarés à cause de l'argent, il n'a que se sont égarés à cause d'un conjoint dans le monde, il n'a que se sont égarés à cause des fausses doctrines. Tu sais, il n'arrête pas de dire dans Timothée, garde le bon dépôt, garde la foi. Tu sais, il va dire à Timothée, là, lui, en 2 Timothée, il est sur le bord là, de passer le bâton. Là. Fait qu'il est en train de littéralement de fermer à Timothée. 1 Timothée, 2 Timothée, c'est aussi un épître pastoral. Fait qu'il donne beaucoup, beaucoup de conseils concernant s'éloigner. Puis il dit, si nous, mais encore, si nous, mais c'est un dicton. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Au début, il l'a dit, comme on dit, c'est vrai, comme on dit. Fait que le « nous », ce n'est pas nécessairement Paul qui le dit, c'est quelque chose qu'il répète, qui s'adresse à tous, y compris lui, y compris les autres hommes. Ça va-tu avec ton commentaire? Bien, renier n'est pas synonyme de décroire comme quelqu'un qui a accepté le Seigneur puis qui le rejette. Okay? C'est synonyme plus de renoncer. Fait que oui, c'est sûr que ça s'adapte à. C'est sûr que. Tu sais, on ne se pose pas la question. Si quelqu'un ne croit pas en Christ, est-ce qu'il est perdu? La question, c'est oui. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si tu as accepté Christ puis que tu renies, est-ce que ça veut juste dire que tu te désauves ou que tu te décrois? Ou est-ce que... Et non, ça veut juste dire refuser. Combien de fois est-ce que je refuse les initiatives de Dieu pour ma vie? Donc, ce qui est remis en question, c'est ma persévérance et le tribunal de Christ qui est remis en question, et non pas ma vie éternelle. On continue. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ah, ça, c'est intéressant. Un autre signe, pour ceux qui aiment les mathématiques et la logique, non F, si nous sommes non F ou infidèles, il demeure fidèle avec un grand V. Je vais expliquer pourquoi un grand V. Car il ne peut se renier lui-même. OK, ça c'est la loi de la complémentarité en logique. Ça paraît-tu que je fais des cours de logique, c'est ainsi? OK. Si nous ne sommes pas fidèles, ou c'est le signe comme ça, si nous ne sommes pas fidèles ou que nous sommes fidèles, c'est équivalent à ce que lui soit fidèle. N'importe quel scénario. C'est une grande vérité avec un grand V, c'est un absolu, c'est quelque chose qui ne change pas. Que je sois fidèle, que je sois infidèle, Dieu demeure fidèle. Mais avant, on a vu quelque chose d'intéressant, on a vu que si je mourais avec lui, je vivrais avec lui. si je persévérais, je régnerais. Et on a vu que lui agirait en fonction de nous. Si on le reniait, il nous reniait. Donc, il faisait en opposition à nous. Par contre, si nous sommes infidèles, si nous ne sommes pas fidèles, ou que nous sommes fidèles, peu importe, lui, grand V, c'est une vérité, ça va toujours être vrai qu'il va rester fidèle, peu importe moi. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre croquis, ça, aujourd'hui? Ça veut dire que si je suis mort avec lui, je vais vivre avec lui, ça c'est vrai, on a vu ça dans notre message. Paul dit, c'est vrai ce qu'on entend dire, c'est vrai ce qu'on chante dans notre hymne à chaque jour du Seigneur, ou c'est vrai ce que les credos des apôtres ont dit, que si on est mort avec lui, on va vivre avec lui, on va partager la vie éternelle avec lui. Et continue, c'est vrai aussi que lorsqu'on persévère avec lui, on va aussi régner, on va partager son règne avec lui. C'est vrai aussi que si on le nie, si on le refuse, si on le rejette, qu'il va aussi nous rejeter pour les récompenses. Hein? Et ici, qu'on soit fidèle ou qu'on ne soit pas. Regardez mon petit ovale qui flash là. C'est important. Travaillez fort. Donc, si nous ne sommes pas fidèles ou que nous sommes fidèles, lui demeure fidèle grand V. Quand c'est une grande lettre majuscule V, ça veut dire que c'est une vérité qui ne change pas. Eh bien, c'est le texte ici qui dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça veut dire ici que le texte qu'on vient d'étudier, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais il vient d'enraciner notre sécurité. Juste par cette dernière phrase-là, qui dit, gars, même si tu deviens infidèle, si tu es infidèle, il demeure fidèle. Quand on était ses ennemis, Christ est mort pour nous. C'est quoi qu'il faut prendre pour plus qu'il nous aime? Quand on était à ses ennemis, il nous a aimés puis il nous a pris avec lui. Il nous a réconciliés, il a enlevé nos offenses. C'est quoi? Il va rester fidèle. Il va rester fidèle à son alliance envers nous. Et même si nous sommes infidèles, ça a un prix. S'il y a quelque chose qui va être touché, c'est certain que si on est infidèle, il y a quelque chose qui va être touché. Mais si on demeure, si on est infidèle, c'est-à-dire qu'on ne partage pas son règne, on ne laisse pas régner sur nos vues sur la terre, ça ne change rien, qui est rentré avec nous dans une alliance qui ne changera jamais, qu'on soit fidèle ou infidèle. Et c'est ça la sécurité des saints. Mais à cause de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce passage, qui cette nuit, je me suis levé, puis c'était le verset qui me revenait tout le temps, je disais, je peux même repousser mon cadran pour me lever peut-être à 6h, 5h30 au lieu de 5h, parce que je savais que j'avais un verset qui venait à côté de tout ce qu'on venait de dire, que je n'avais pas étudié, que je n'avais pas lu récemment, mais que j'ai cherché ça. Et c'est 1 Pierre 1,15 qui dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant Pourquoi est-ce qu'on se conduit avec crainte? Eh bien, c'est parce que notre papa, c'est aussi un juge. Puis, il va juger les œuvres de chacun. Il va nous passer en revue. Hein? Puis, celui qui nous a appelés est saint. Puis, on doit être saint dans toute notre conduite. Regarde, ensuite, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par, c'est quelle œuvre? Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Fait que ce passage-là, au départ, semble nous laisser croire que si on ne persévère pas, ben on est renié puis fall ball. Puis quand on l'étudie, si les quatre énoncés sont vrais, on va arriver à la conclusion que notre persévérance met en jeu. Notre persévérance et notre fidélité va mettre en jeu notre règne avec Christ et qu'on pourrait être renié de certaines récompenses que Dieu aurait voulu nous donner, mais qu'on ne sera pas refusé pour quelque chose qui est vrai, que si nous sommes morts, nous allons vivre avec lui. Point. Et ça devrait enraciner notre sécurité qu'on a en lui et nous donner une crainte et un genre de « OK, mais il y a quand même quelque chose qui est en jeu envers mon papa qui est dans le ciel, c'est que je vais avoir un jour où ce qui va évaluer les œuvres que je vais avoir faites sur la terre. On n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que en logique, savez-vous qu'est-ce que les ont fait? Et c'est là que la doctrine de la persévérance vient faire. Elle dit, si tu ne persévères pas, tu l'as nié, puis si tu as été infidèle, ça veut dire que tu n'es jamais mort avec Christ. Donc, les gens ne sont jamais en repos parce qu'ils ne savent jamais s'ils ne persévèrent pas totalement, s'ils ne sont pas toujours en train d'accepter les invitations de Dieu, puis s'ils ne sont pas totalement fidèles, eh bien, ils vont être niés par lui. Alors là, ça ne met pas de repos. Fait que, qu'est-ce qu'on dit? On dit, cette partie-là n'est pas vraie. Donc, la personne n'a jamais participé à la mort de Christ, donc ne vivra jamais avec lui, n'héritera jamais avec lui et va être renié. Mais en séparant, ce n'est pas les œuvres, c'est par grâce, le salut. Ou c'est par les œuvres et on va avoir un salaire, les œuvres, le travail qu'on fait pour le Seigneur, la persévérance qu'on a. En faisant cette exclusion simple au départ de notre message, et en regardant au travers une vérité de l'Écriture qui est claire, on peut regarder un passage qui est plus sombre et puis réaliser, non, on ne met pas en doute que tu étais sauvé ou pas. On met en doute que tu ne fais peut-être pas des choix de persévérance. Tu n'acceptes peut-être pas les invitations que Dieu te donne. Tu n'es peut-être pas fidèle. Et ça ne remet pas en question nécessairement que tu as fait cette expérience et que tu as la vie éternelle. Mais ça peut remettre en question l'héritage qui va être donné. Alors, sur ce, on va terminer avec Romains chapitre 8, un passage extraordinaire qui nous montre que c'est vrai, qu'on ne sera jamais séparé d'avec lui. Verset 38. Peut-être même on pourrait lire à partir de verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il l'a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Ceux que Dieu a choisis. On parlera de l'élection un autre moment. C'est que Dieu les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. Ça veut dire quoi ça, ni le présent, ni l'avenir? On ne sait pas si on va persévérer. On ne sait pas si on ne va pas péter une coche. Puis l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur, parce qu'il nous aime d'une alliance. C'est un amour d'alliance ici. Je bifurque ici parce qu'ici c'est basé sur nos œuvres, mais ici c'est basé sur l'alliance, cette partie-là. Il nous aime avec une alliance et il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce passage des Écritures. Un petit peu difficile à comprendre. Ah, puis en passant, lisez aussi ce chapitre-là. Vous allez voir que ça ne parle que des récompenses puis de finir bien la course aussi. Ça ne parle pas du salut. Un peu difficile à comprendre, mais Seigneur, quand on prend tes passages qui sont clairs, qui nous expliquent que le salut ne peut pas être enlevé puisqu'il a été donné par grâce, bien, on se repose dans la sécurité. On n'a pas besoin de douter de ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, c'est ton amour qui nous pousse à vouloir persévérer. C'est ton amour qui nous pousse à vouloir régner avec toi. Et on va être proche de toi, Seigneur, quand tu vas revenir. C'est ça qui nous pousse, Seigneur, à être proche. Ce n'est pas la peur d'avoir jamais été sauvé. Ce n'est pas la peur d'être condamné avec le reste du monde. Non, ça, c'est réglé. Mais c'est la peur, Seigneur Dieu. Oui, une peur, par exemple, cette peur d'avoir, comme Paul disait, j'ai peur d'être rejeté après avoir exhorté les autres. Après avoir dit aux autres de vivre pour Christ, que moi-même, je ne cours plus pour atteindre le but de la vocation céleste. Seigneur, tu es notre Père, mais aussi tu vas prendre la position de juge où tu vas passer devant nos yeux ce qu'a été notre vie, nos relâchements, notre persévérance. Et tu sauras récompenser la persévérance, Papa. Seigneur, c'est le seul temps dans l'histoire de l'homme où ce qu'on peut être pour toi dans un monde qui est contre toi. Quand tu vas revenir, Seigneur, je prie que tu trouves des serviteurs qui sont occupés à vouloir te servir, te connaître. Tu dis « Heureux le serviteur que le maître trouvera ainsi à son retour, veillant et servant. » On n'a pas besoin d'être 200, on n'a pas besoin d'être une multi-église répandue dans les quatre coins du monde pour que tu puisses dire « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » On va passer seul devant toi, Seigneur, pas avec les autres, seul. Puis que cette vérité puisse être à elle seule suffisante pour nous motiver à vivre une vie qui est consacrée à toi. S'il y a quelqu'un ici qui entend l'enregistrement, qui est dans la salle ici, puis la première chose qu'on a dit, c'est qu'il fallait mourir. Vous pouvez regarder à l'écran avec moi. La première chose qu'on a dit, c'était qu'il fallait partager l'expérience de Jésus pour pouvoir avoir la vie éternelle. Ensuite, on peut partager sa gloire éternelle. Mais ça ne vient pas, par exemple, sans ça. C'est-à-dire que pour pouvoir participer ici, il faut avoir la vie éternelle, premièrement. Comment est-ce qu'on a la vie éternelle? Bien, il faut mourir avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire maintenant, mais c'est quelque chose qui a eu lieu à la croix. Christ est mort pour moi, sur la croix. Et donc, en acceptant qu'il a payé ma punition, c'est Dieu prend en main à mon compte comme si c'est moi qui étais mort pour ça, pour mes propres fautes. Et si je fais ça, la Bible dit que Dieu me promet que je vais partager la vie avec lui. Point. Ça, c'est le salut. Ça l'exclut tout le reste. On ne parle même pas de ça. Aujourd'hui, on ne parle même pas de ce qui est en bas. Si tu n'as pas compris d'abord qu'il fallait faire pas d'œuvre et recevoir la grâce, c'est juste de ça qu'il faut parler. Après, Dieu te donne la faveur de travailler pour lui. Il t'embauche dans sa vigne pour que tu puisses aussi régner avec lui. Ça, c'est après. Mais c'est sûr que la porte d'entrée, c'est d'être sauvé. Fait que si tu veux recevoir ce que Jésus-Christ a fait, si tu voudrais partager l'expérience de la mort de Christ et sa résurrection, je t'invite à faire cette prière pour reconnaître sa mort pour toi. Et la prière, c'est reconnaître qu'on est pécheur, qu'on mérite d'être puni, que Christ a été puni à notre place, qu'il est ressuscité des morts pour nous donner la vie éternelle. Fait qu'on va fermer les yeux ensemble et on va faire cette prière-là. On va la faire par geste de courtoisie. Mais s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vraiment compris l'Évangile, ça va peut-être être la première fois que tu l'as fait. Ce n'est pas une prière qu'on a besoin de faire tout le temps, mais on l'a fait par courtoisie, on t'accompagne dans ça. Si tu es sur enregistrement, ce n'est pas les paroles que tu dis qui sont importantes. Tu n'as pas besoin d'être dans l'Église pour faire cette prière-là. Tu as besoin de croire ce que tu vas dire, de croire en Dieu et en son Fils Jésus et ce qu'il a fait pour toi. Répète cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que tu es mort sur la croix pour être puni à ma place. Excuse-moi. Je reconnais que tu as payé ma dette, que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Je le crois et je l'accepte. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, que vous avez cru ce que vous avez prié, vous avez cru en Dieu au travers de ce que vous avez prié, la Bible dit que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes, Dieu s'unit à vous par alliance, l'alliance de son sang à la croix. Il ne cessera jamais de vous aimer, jamais, jamais, il va se séparer de vous et vous accueillir parce qu'il a tout payé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un bon moment. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a donné le goût de faire de les mathématiques de logique. On va finir avec un chant. Stéphane, on a-tu un chant? On va finir avec un chant.